Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Midi et demi, l'heure de l'Empire du Milieu, c'est Huawei, le géant chinois qui vient de dévoiler ce que sera son usine française près de Strasbourg. 500 emplois, premier site hors de Chine. Une grosse ligne de crédit pour sauver les hôtels Accor, près de 500 millions d'euros de prêts garantis par l'État. Pour le vaccin Pfizer, le ministre de la Santé refuse d'allonger le délai entre les deux injections. Cela restera 4 semaines maximum. Deuxième nuit d'émeute aux Pays-Bas contre l'instauration d'un couvre-feu. La maltraitance animale en débat à l'Assemblée avec une série de mesures. Le Vendée Globe à 24 heures et quelques de l'arrivée, suspense jusqu'au bout d'Alain toujours en tête. Invité d'Europe Midi, la comédienne Stéphanie Bataille. Son père a contracté le Covid à l'hôpital. Il en est mort sans qu'elle ait pu le revoir. Elle interpelle aujourd'hui les autorités de santé et le président de la République.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Doit-on se réjouir pour l'emploi ou s'inquiéter des risques d'espionnage ? Huawei, le géant chinois des télécoms, vient de dévoiler ce que sera son site alsacien à Brumath, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Première usine hors de Chine. Clément Lessa, vous venez de suivre la conférence de presse.
Oui, et on a appris donc que la France a mis le paquet pour attirer Huawei hein. Chez nous. 50 sites ont été proposés par Business France lors de l'année écoulée. Et c'est finalement celui de Brumath qui a été choisi pour sa localisation en fait au carrefour de l'Europe. C'est un projet à 200 millions d'euros avec 500 emplois à la clé. Pour Jean Rottner, le président de la région Grand Est, peu importe les suspicions d'espionnage autour de Huawei, c'est d'abord pour lui une bonne nouvelle dans une période difficile.
Vous le savez, nous avons été très sévèrement touchés par l'épidémie qui nous concerne toujours aujourd'hui. Nous avions besoin aussi d'adresser des signes à notre population, à nos chefs d'entreprise. Nous avons à l'esprit que notre mission première aujourd'hui, pas de nous perdre dans des polémiques stériles.
Alors, Huawei va fabriquer sur place des stations de base. Ce sont des équipements placés sur les antennes des opérateurs et qui connectent en fait les téléphones au réseau mobile pour la 3G, la 4G et surtout, et c'est ça qui est intéressant pour le savoir-faire français, pour la 5G, le futur réseau qui est en train d'être déployé. On parle aussi d'une usine du futur, hein, c'est un terme un peu vague, mais c'est surtout d'une usine qui sera respectueuse de l'environnement, a tenu à préciser Jacques Biot. C'est le président du conseil d'administration de Huawei France.
Huawei s'engage à utiliser des matériaux et des procédés de fabrication respectueux de l'environnement, en réduisant autant que possible l'utilisation de ressources non recyclables, de matériaux non biodégradables et l'émission de déchets.
Alors le site s'étendra sur 40 000 m² dans le Business Park de Brumath où il y a déjà beaucoup d'entreprises de gros industriels. La construction débutera en 2022 et le début de la production courant 2023.
Merci Clément Lessafre. L'État ne fait pas crédit qu'aux plus petits, les PGE, les prêts garantis par l'État mis en place pour aider les entreprises à traverser la crise sanitaire, profitent à 95% à des PME, mais après l'aérien et l'automobile notamment. Bruno Le Maire vient d'ouvrir une grosse ligne de crédit à l'hôtellerie. Accor Invest va bénéficier d'un prêt de 477 millions d'euros, Carole Ferry.
Exactement, un prêt garanti à 80% par l'État. Une bouffée d'oxygène pour le groupe qui a perdu 70% de son chiffre d'affaires depuis le début de la crise. Accor Invest, je vous le rappelle, ce sont tous les hôtels Ibis, Novotel, Mercure, 900 établissements au total dans le monde. Et cette bouffée d'oxygène, eh bien, elle ne remet pas en cause le plan social qui avait été annoncé. Hein, plus de 700 emplois supprimés en France. Selon la direction, ça aurait été pire sans ce prêt. Alors Accor Invest n'est pas la première grande entreprise à avoir bénéficié d'un prêt garanti par l'État. La toute première à y avoir eu droit, c'est Fnac Darty. 500 millions d'euros garantis à 70%. Ensuite, il y a eu Castorama et Brico Dépôt, 600 millions. Le groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1, 465 millions d'euros. Les plus importants ont été débloqués pour Renault, 5 milliards, et Air France, 7 milliards. Dans une moindre mesure, vous avez tout un tas de prêts, compris entre 15 et 200 millions d'euros pour Noroto, Buffalo Grill, Conforama, les Galeries Lafayette, un peu plus d'une trentaine au total. Alors, il s'agit de prêts accordé par les banques, mais que l'État devra donc rembourser si les entreprises concernées n'étaient pas en mesure de le faire.
Carole Ferry, enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises auprès de ses adhérents. Une PME sur deux estime ne pas être en capacité de supporter un troisième confinement. Ce sont des indicateurs comme celui-là qui ont conduit Emmanuel Macron à se donner quelques jours avant de trancher sur un éventuel nouveau confinement. Rien n'est acté, pas de prise de parole programmée demain. Pas de précipitation, indique ce matin Bruno Le Maire, qui appelle à attendre calmement les effets du couvre-feu. Effet explosif aux Pays-Bas, où plusieurs villes se sont embrasées pour la deuxième nuit consécutive. Affrontements entre protestataires et police anti-émeute, notamment à Amsterdam et dans la grande ville portuaire de Rotterdam, d'où nous appelle notre envoyé spécial Isabelle Horry.
Les balayeuses effacent les dernières traces des incidents de la nuit. Dans son magasin, Elham, l'esthéticienne, contemple les dégâts.
Ils ont cassé la vitre en jetant une pierre. Le plus douloureux, c'est que j'ai tout vu derrière mon écran grâce à la caméra de sécurité. J'étais sans voix. Ce n'était pas une manifestation, c'est du vandalisme.
Des casseurs plus que des militants opposés aux restrictions anti-corona, c'est aussi ce que pense Boring, qui promène son chien dans la rue. Elle est choquée par ce qu'elle a vu de sa fenêtre.
Quel manque de respect. Ce n'est pas une manifestation, c'est une émeute ce que ces jeunes ont fait là. Et tous ces pillages, ça ne peut pas se passer comme ça.
C'était des jeunes du quartier, explique la police. Une soixantaine ont été arrêtés rien qu'à Rotterdam. Au total, à travers les Pays-Bas, plus de 250 interpellations. Pour autant, Mats n'est pas inquiet. Il a pris son vélo pour venir travailler, comme tous les jours.
Je ne suis pas très inquiet. Je pense que c'est une toute petite partie de la population. En fait, je ne pense pas qu'ils protestent vraiment à cause du couvre-feu, non.
La violence urbaine a choqué les habitants, elle est rare aux Pays-Bas. Il faut envoyer l'armée pour faire respecter les règles, lance un homme d'une cinquantaine d'années. Rotterdam, Isabelle Horry, Europe 1.
Le compteur des vaccinations dépasse en France, approche plutôt les 1 100 000 vaccinés. Pour le vaccin Pfizer, Olivier Véran maintient le délai entre les deux injections recommandées par le fabricant, pas plus de 4 semaines entre deux doses. Le ministre de la Santé vient de s'en expliquer, avenue de Ségur, Victor Delande.
Oui, l'Agence nationale de sécurité du médicament et la Haute Autorité de Santé avaient pourtant validé cette possibilité d'espacer les deux doses jusqu'à 6 semaines. Mais il n'y a pas de consensus scientifique sur le niveau d'immunité conféré par la première dose. Des doutes exprimés par le professeur Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, et résumés dans la foulée par le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Un impact mineur sur le rythme de la vaccination en France, en tout cas à 2 ou 3 mois. L'absence d'études cliniques sur une administration à 42 jours du rappel de vaccination. La faiblesse des connaissances scientifiques sur la protection des personnes entre 2 injections. Et l'absence de données permettant de croire à la protection des personnes entre 2 doses face à la menace des variants.
Olivier Véran ne veut donc prendre aucun risque. La règle reste la même. La deuxième injection du vaccin Pfizer devra être faite 21 à 28 jours maximum après la première. Le ministre de la Santé a également rappelé qu'à l'exception de l'Angleterre et du Danemark, tous les autres pays européens avaient choisi de conserver la même stratégie, 3 à 4 semaines entre les 2 injections.
Victor Delande en direct du ministère de la Santé, avenue de Ségur.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Chien et chat, dauphin, vison, au sommaire des députés cet après-midi. 2 députés LREM ont profité d'une niche, bien nommée, d'une niche parlementaire, pour signer une proposition de loi contre la maltraitance des animaux. Claudia Bertram, vous êtes à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est une parenthèse au milieu des sujets sanitaires ou régaliens. Chiens, chats, dauphins ou encore ours et visons seront au cœur des débats à l'Assemblée durant les prochains jours. Parmi les mesures phares, des certificats de connaissance pour les acheteurs d'animaux, le durcissement des sanctions contre la maltraitance avec 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Il y a aussi l'interdiction progressive de la détention d'animaux sauvages dans les cirques itinérants et les delphinariums ou la fermeture des élevages de visons. Un texte historique pour la co-rapporteure. La députée LREM Laetitia Romero-Dias.
Il nous semblait important qu'on puisse consacrer un temps politique nécessaire à débattre de la condition animale. C'est un sujet de préoccupation de nos concitoyens.
Mais le texte n'aborde pas certains sujets, ceux qui fâchent le plus, comme la chasse et l'élevage, ce que regrette le député ex-LREM Mathieu Orphelin.
C'est complètement incohérent qu'on enlève du débat ces sujets qui sont pourtant essentiels. À chaque fois, sur l'écologie, hein, comme depuis le début du quinquennat, la majorité n'arrive pas à faire les choses vraiment. C'est toujours à moitié ou c'est toujours en écoutant à la fin trop ceux qui veulent que rien ne change.
Dans la majorité, on revendique la recherche du consensus sur ce texte. La volonté n'est pas de cliver, résume une élue.
Claudia Bertram. Journée de grève dans l'éducation nationale. Les appels s'adressent aussi aux infirmières scolaires, aux lycéens et étudiants. Plusieurs défilés prévus à Paris et en région pour demander notamment de meilleurs salaires. Gérald Darmanin étudie la dissolution de Génération Identitaire. Le ministre se dit scandalisé par les dernières opérations anti-migrantes, ce groupuscule dont le Rassemblement National vient de prendre la défense. La mort d'une gendarme de 32 ans, Myriam Sacri, en 2011 dans sa caserne de Lyon, revient devant la justice. L'enquête avait conclu à un suicide pour raison personnelle. Sa famille plaide pour le harcèlement en ce moment devant la cour d'appel de Lyon. Gladys Laffitte.
Oui, les proches de Myriam Sacri sont convaincus que sa mort est directement liée à ce qu'elle subissait au travail. Alors pour le prouver, ils ont réuni des dizaines de témoignages d'anciens collègues de la gendarme qui attestent d'un harcèlement au travail, d'insultes, de racisme et surtout d'une mise à l'écart par ses camarades pendant 6 mois avant sa mort. Les témoins attestent aussi d'une enquête à l'époque impartiale, orientée et pleine d'incohérences, selon Hassina Sacri, l'une des sœurs de Myriam.
Ma sœur, bien avant sa mort, avait déjà dénoncé certaines pommes pourries dans sa caserne. Quand l'une des personnes nommées par ma sœur est une des premières personnes qui se retrouve devant son corps encore chaud, ça pose problème.
La famille met aussi en cause la hiérarchie qui n'aurait pas protégé Myriam Sacri, au contraire, en lançant des procédures contre elle. Elle avait d'ailleurs désigné nommément son supérieur direct dans un mot manuscrit retrouvé dans son appartement, un élément qui, comme d'autres, n'aurait pas été exploité correctement durant l'enquête. Alors les proches espèrent beaucoup de la reprise des investigations pour définitivement faire la lumière sur les conditions de la mort de Myriam Sacri. Ils peuvent déjà compter sur le soutien du parquet général qui est favorable à la réouverture de l'information judiciaire.
Gladys Laffitte, au large des Sables d'Olonne, le skipper de tête du Vendée Globe, Charlie Danin, pointe à 800 km seulement de l'arrivée. Ses deux poursuivants, Boris Herman et Louis Burton, sont à 160 km pour le premier, 200 km environ pour le deuxième. L'ordre vient de s'inverser. Herman est passé devant Burton. Corinne Boulou, vous avez fait appel au souvenir de deux anciens vainqueurs, Armel Lecléache et François Gabart, sur ces dernières 24 heures en mer.
Tous deux ont eu la même sensation, cette crainte de tout perdre sur les dernières heures. Armel Lecléache a vécu un final serré, deuxième il y a 8 ans, moins de 3 heures après François Gabart, avant de connaître le bonheur de la victoire en 2017. Mais que de stress.
Oui, le stress augmente parce qu'on sent que quelque chose va se terminer. Et finalement, on commence doucement à sortir un petit peu de son green de marathonien, de solitude. Donc, on commence un petit peu à avoir des mauvais scénarios dans la tête en se disant « Bon, j'espère que je ne vais pas démater, j'espère que je ne vais pas taper un ovni, j'espère que je ne vais pas me prendre un bateau de pêche. » Et donc, il est temps que ça se termine parce qu'on commence un petit peu à sortir de sa concentration.
François Gabart, plus jeune vainqueur du Vendée Globe, n'a lui savouré qu'au dernier moment.
Sur la ligne, ouais. C'est vraiment quelques secondes ou quelques minutes avant où je me dis « Ah, là, ça devrait le faire », mais c'est vraiment une heure avant la ligne d'arrivée. Honnêtement, je suis toujours hyper concentré sur le bateau. Je me dis « C'est pas le moment où il faut faire une erreur, quoi ». Jusqu'à vraiment aller quelques secondes avant où là, je commence à me dire qu'il peut plus rien m'arriver. C'était très, très intense.
Et une fois la ligne franchie, le vainqueur bascule dans un autre monde, emporté par une houle d'émotions qui tranche avec la maîtrise des dernières heures. Les Sables d'Olonne, Corinne Boulou, Europe 1.
Corinne Boulou, avec qui on vivra demain toute la journée les dernières heures palpitantes de cette course du Vendée Globe. Le temps, Anissa Haddadi, la pluie arrive par l'ouest.
Oui, avec sur les Hauts-de-France, la Normandie, le Cotentin, la Bretagne et Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et la Gironde cet après-midi. Beaucoup plus d'averses. Les nuages gagnent aussi du terrain. En gros, le ciel est couvert sur pratiquement tout le pays. Seuls l'Alsace, les Alpes, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse et même les Pyrénées resteront sous le soleil. Partout ailleurs, c'est très gris. Attention, un risque d'avalanche sur le Massif central aussi cet après-midi. Les pluies vont envahir tout le pays dans la nuit prochaine, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Il va faire frais cet après-midi, 3 à Belfort, 4 à Chambéry, 6 à Paris, Lille, Strasbourg et Lyon, 10 à Marseille, 12 à Nice et 14 pour Tarbes.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant avec nous, la comédienne Stéphanie Bataille qui vient de perdre son père à l'hôpital dans des conditions révoltantes et qui veut interpeller les pouvoirs publics.